Bonjour, que la joie de Dieu et sa paix, qui surpasse toute intelligence, animent vos cœurs et vos pensées. Parmi les textes de ce dimanche, nous lirons celui qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, nous lirons les versets 4 à 10. Ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Paul écrit au verset 5 que notre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes, et au verset 7, il parle d'une autre sagesse, celle de Dieu. On l'a constaté, il met en opposition ces deux sagesses, et surtout, il prononce la condamnation de Dieu sur celle des hommes. La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 19, ou encore « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas condamné de folie la sagesse du monde ?» 1 Corinthiens 1, verset 19 et 20. Manifestement, il y a incompatibilité d'humeur entre ces deux sagesses. Mais pourquoi Dieu est-il si farouchement opposé à la sagesse des hommes? La réponse se trouve dans Genèse 3, quand Satan a fait croire à Adam et Ève que Dieu les maintenait dans un état de dépendance, mais que le jour où ils décideraient de voler de leurs propres ailes, ils seraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce mensonge a deux facettes. D'abord, vous serez comme Dieu. C'est une illusion, car elle prétend que l'homme peut jouer dans la cour des grands. Pour comprendre que ce jeu d'égal à égal est insensé, il suffit de considérer la place de l'homme dans la création et nous poser cette question. Qu'est-ce que l'homme dans cet immense univers ? La réponse, évidemment, est dans la question. L'écart est abyssal, mais l'homme est aveuglé par son arrogance. La seconde facette, connaissant le bien et le mal, est aussi un leurre, car l'homme s'imagine qu'avec ses connaissances, certes non négligeables, il peut tout expliquer, tout maîtriser, sans tenir compte des conseils bienveillants de Dieu son Créateur. À cette folie de l'homme, Dieu a répondu par une autre folie. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, le verset 21. Dieu a fait le choix de répondre à la condescendance de l'homme en faisant de la croix le point névralgique de son plan de salut pour l'humanité. Il a volontairement démontré sa sagesse au travers de la croix de Christ. Toujours Paul écrit dans 1 Corinthiens 1, versets 23 et 24, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Résultat des courses, comme on dit, l'homme qui désire entrer dans le plan de salut de Dieu doit abandonner toute prétention d'égalité avec Dieu. Il doit reconnaître son état de pécheur et enfin accepter que son salut vienne de Christ crucifié. La chute est vertigineuse, mais salutaire. Jésus est la personnification de la sagesse divine, peut-on lire dans Colossiens 2, verset 3. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On sait que Salomon avait reçu une dose de sagesse exceptionnelle. Or, dans Matthieu 12, au verset 42, Jésus dit que si une reine est venue des extrémités de la terre pour entendre sa sagesse, il y a ici plus que Salomon. La sagesse de Salomon était une pâle figure de celle de Christ. Les gens étaient surpris par sa sagesse. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Matthieu 13, 54. Luc, dans son évangile, constate que la sagesse de Dieu était déjà présente et agissante en lui dès son enfance. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, les versets 40 et 52. Dans notre texte du jour, Paul appelle les chrétiens les parfaits. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ce qualificatif ne suppose pas une perfection morale dans toute sa rigueur. Il ne s'agit pas de devenir des personnes irréprochables. Mais selon son sens étymologique, il s'agit d'un développement, d'une progression. Le terme grec signifie qui a grandi, qui a mûri, qui a atteint sa maturité comme un fruit. Après ce jugement radical sur la sagesse des hommes, désigner le croyant de parfait n'est évidemment pas dû au hasard. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, envoie un message fort à tous ceux qui ont accepté le verdict de Dieu sur leur vie. Votre nouvelle vie ne sera pas figée, sans perspective, sans connaissance, sans développement personnel. Bien au contraire, vous allez grandir dans la sagesse qui vient de Dieu. Et que Jacques 3 écrit ainsi, ou définit ainsi. Elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et toujours dans sa lettre, Jacques nous dit au chapitre 1, « Si quelqu'un manque de cette sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Que Dieu vous bénisse. »